Bonjour, c'est Loïc du blog Mon Potager en Carré. Alors c'est pas sans une certaine fierté que j'accueille Guylaine Goulfier sur mon blog. L'auteur du livre Révolution au potager nous présente un autre regard sur les plantes et le sol. Passage du motoculteur, déchage et binage, fertilisation et amendement, désherbage, arrosage. Cela fait 20 ans que je pratique le jardinage. Jardinage biologique, en intervenant le moins possible dans les cycles naturels, bien sûr. Je me base pour cela sur la compréhension que j'ai du sol et des plantes données acquises durant mes études agricoles. Mais l'an passé, à l'occasion de l'écriture d'un livre, toute cette paisible construction a été ébranlée. Une découverte m'a fait prendre conscience que nos connaissances se limitaient à ce qui se passait à la surface du sol, là où justement le jardinier intervient. Que l'on peut définir de façon physico-chimique ce qu'est le sol, la vie qui est à l'œuvre dans ses profondeurs reste presque totalement inconnue. Je vous propose de vous faire partager mes découvertes de l'an dernier, une vraie révélation pour moi, après avoir fait le point sur ce que l'on connaît déjà et avant d'en tirer conséquences sur les pratiques de jardinage. Ce que l'on sait. Voici en condensé ce que j'ai appris en lycée agricole, puis en BTS, et que j'ai diffusé dans tous mes articles. Un petit inventaire de choses concrètes, de mécanismes bien définis. Naissance et vie du sol. À l'origine, une roche-mère, un socle de pierre. Les pluies, le vent, le gel, la neige participent à sa dégradation, à sa fragmentation en minéraux de plus en plus fins. Des graviers, des gravillons, du sable, des limons, des argiles et des éléments minéraux en suspension dans l'eau du sol. Mais cette fragmentation ne suffit pas à créer le sol. Il est nécessaire pour cela que le minéral rencontre le végétal, ce qui, sous des climats tempérés, a lieu assez rapidement. Les premiers lichens s'installent sur la pierre, puis les mousses et enfin les plantes pionnières dont les racines n'ont besoin que de très peu de terre. Ces végétaux se développent puis meurent, formant ainsi une litière sur le sol. Celle-ci est décomposée par toute une faune, dont les déchets et les cadavres enrichissent la litière, et une flore, bactéries, champignons, qui participent à sa décomposition. Deux mécanismes simultanés en découlent. La libération des éléments minéraux et la création d'une molécule organique très particulière, l'humus. Cette molécule est colloïdale. Elle a la vertu de capter, d'absorber d'autres particules, ainsi que de nombreux ions. L'humus se lie avec les molécules d'argile, également colloïdales, pour constituer le complexe argilo-humique. Ce dernier fonctionne comme une éponge. Il retient l'eau et les éléments minéraux et les restitue aux racines en fonction des besoins des plantes. Le CAH donne du corps aux terres légères et allège les terres trop lourdes. Le sol est en perpétuelle évolution tant en surface, avec la décomposition de la litière pour maintenir le taux d'humus, qu'en profondeur, avec la dégradation de la roche mère assurant le maintien du taux d'argile. La plante capte et pompe. Nous l'apprenons tous très vite. Les végétaux captent dans le sol les éléments minéraux et l'eau nécessaire à leur croissance. Il s'agit de la sève brute qui est transportée par des canaux des racines à l'appareil aérien. Le feuillage capte l'énergie lumineuse qui, par le biais de la photosynthèse, est transformée en glucides, en sève élaborée. Cette dernière permet à la plante de se développer. En conséquence, le sol est un substrat pour la plante, qui lui permet de s'ancrer. Sa texture et sa structure doivent être fines et meubles, afin de permettre aux racines de s'étendre, mais aussi à l'air et à l'eau, chargés d'éléments minéraux, de circuler pour mieux alimenter les plantes. En conséquence, pour avoir une bonne terre, on pourra avoir recours à des amendements, et pour qu'elle soit meuble, on la travaillera mécaniquement. Cet ameublissement permettra de détruire les mauvaises herbes qui concurrencent les cultures en puisant leurs nutriments dans le sol. La plante épuisant les éléments du sol, sa récolte crée une perte. En agriculture, on parle d'exportation. Il convient donc de restituer au sol ce que la culture a prélevé et donc d'appliquer une fertilisation. À savoir, utiliser des engrais chimiques, solubles s'ils sont directement absorbables par les plantes, ou nourrir le sol pour pouvoir nourrir les végétaux, avec des engrais bio, guano, patancali, ou des amendements organiques, fumier, compost. Ce que l'on découvre, je ne mets pas en cause ce qu'écrit précédemment. Simplement, l'an dernier, une photo a tout changé pour moi. Il s'agissait de plusieurs images d'une racine de maïs expulsant une substance dans le sol. Mais qu'est-ce que c'était que cela ? L'illustration de la racine en coupe a été la révélation. On y voyait bien des petits canaux transportant la sève brute, mais aussi un gros canal central amenant la sève élaborée jusqu'à l'extrémité de la racine. La sève élaborée est diffusée dans le sol. Ok, la phrase n'a l'air de rien, mais pour moi, c'était le début de la révélation. Rhizodéposition, Quesaco. La plante utilise la sève élaborée jusqu'à 20% pour diffuser dans le sol un cocktail de substances riches en carbone. Cette excrétion se nomme rhizodéposition. Rappelons ici une chose fondamentale. Pour tous les êtres vivants, le carbone est un carburant indispensable, primordial. Or, la Terre grouille de millions de micro-organismes à la recherche de carbone. Nombre d'entre eux, essentiellement des bactéries et des champignons, se massent donc autour des racines pour capter ce carbone. Cette flore souterraine contient divers éléments minéraux et oligo-éléments puisés pour leur fonctionnement dans le sol. De l'azote, de la potasse, du phosphore, du fer, du sélénium. Les bactéries et champignons de la rhizosphère sont dévorés par des nématodes, des amibes. Ces prédateurs vont rejeter une partie du contenu de leur proie, des éléments minéraux devenus absorbables par les plantes. Cela tombe bien, les micro-organismes dévorés étaient contre les poils absorbants des racines. Celles-ci captent immédiatement les nutriments libérés à proximité. Bien sûr, les prédateurs des champignons et bactéries deviennent à leur tour des proies d'acariens et d'autres faunes prédatrices, et ainsi de suite. Dans les profondeurs de la terre, une vraie chaîne alimentaire existe. Et si les plantes enrichissaient le sol ? Le sol est en quelque sorte l'appareil digestif des plantes. Le végétal demeure le donneur d'ordre de cette chaîne. Besoin de fer, de potasse, de magnésium, hop ! La plante modifie la composition de sa rhizodéposition et attire, élève des bactéries contenant les nutriments qui lui manquent. Que deviennent les autres populations devenues inutiles pour la plante? Elles meurent, mais restent dans le sol, maintenant dans leur corps les fameux nutriments potentiels. De petits sacs d'engrais, en quelque sorte. Tous ces micro-organismes attirés dans la rhizosphère forment l'humus microbien. Une plante exigeante en potasse, par exemple, ne se contente pas de prélever cet élément minéral en mobilisant les bactéries qui le contiennent, elle participe à se remonter des profondeurs du sol. La plante récoltée, le sol sera enrichi en potasse fixé pas sur le CAH ou présent dans les corps microbiens. Et si les plantes ameublissaient le sol ? Sous une litière, ou lorsque l'on arrache une plante, on peut observer une terre joliment grumeleuse, une texture idéale, naturellement créée par la vie du sol. Les bactéries sont enveloppées d'une glue qui leur permet de se coller aux moindres particules et de lier celles-ci entre elles. Les champignons font de même en émettant leur propre colle, la glomaline, et en formant des résilles avec leurs filaments. Des milliers d'animaux qui circulent dans le sol creusent des galeries et aèrent les agrégats. Inutile donc d'ameublir le sol pour que les racines se développent. C'est en se développant que les racines ameublissent le sol. Et si les racines étaient indispensables à la survie du sol ? On l'a vu, pour continuer à exister, le sol doit être dégradé aussi bien en surface qu'en profondeur. Mais comment la roche mère, recouverte de terre, peut-elle être dégradée? Grâce au CO2 et aux divers acides organiques libérés par les racines et les micro-organismes qu'elle mobilise. On parle toujours du maintien du taux humide dans le sol. On n'aborde en revanche jamais la problématique du renouvellement du stock d'argile. Seules les racines vivantes et toute la rhizosphère permet leur émission. Ce que l'on déduit, un nouveau jardinage. Cela n'a peut-être l'air de rien, mais changer de regard sur la plante, ne plus considérer cette dernière même cultivée comme dépendante de l'homme, modifie complètement la conception que l'on a du jardinage. Stop à certaines pratiques, destruction des vers de terre et de leurs pontes, oxydation de l'humus, dépense de carburant, de temps et d'énergie aussi. Le passage du motioculteur est jugé par beaucoup comme néfaste, ainsi que tout travail profond du sol. Je me contenterai pour l'heure de dire que je trouve la pratique totalement inutile. Un sol vivant, et je parle ici de la vie souterraine, pas seulement celle que se trouvant en surface, n'a pas besoin d'être ameubli. Stop à la fertilisation, même bio. Les engrais solubles, chimiques, fonctionnent chez les plantes comme une perfusion. La rhizodéposition devient alors inutile, diminue, et le réseau alimentaire dans le sol est court-circuité. Les engrais bio ne posent pas le même problème. Mais comment prétendre que les apports artificiels donnés aux plantes soient aussi précis, subtils, que ceux qu'élaborent les végétaux eux-mêmes? Et bien sûr, n'utiliser les pesticides qu'en dernier recours. La bouillie bordelaise est parfois nécessaire pour prévenir les attaques de mildiou. Mais appliquée systématiquement et en excès, les particules de cuivre se retrouvent dans le sol et leur action étant fongique, porte préjudice aux champignons de la rhizosphère. Un jardinage de feignants? Mieux respecter les cycles naturels en y intégrant les mécanismes souterrains ne rime pas avec laisser faire. Le jardinier va simplement pratiquer autrement, plus tranquillement aussi. D'abord, toujours couvrir le sol avec du BRF, de la paille, du fumier, des tombes de gazon, des déchets de cuisine et de jardin à étaler en surface de la terre plutôt que mis à composter en tas. Il faut en effet permettre le maintien du taux d'humus dans le sol. Mais l'idéal reste tout de même la couverture du sol par des plantes vivantes. Plus il y a de racines, plus il y aura de vie dans la terre, et plus la roche mère libérera d'éléments minéraux et d'argile. Semons donc des engrais verts, bien sûr, mais cultivons aussi notre tolérance envers les mauvaises herbes, qui ne sont pas vraiment gênantes, Véronique, Mouron. Et toujours associons le plus de plantes possible, parce que les systèmes racinaires sont souvent complémentaires dans l'espace, mais aussi parce que chaque plante mobilise dans le sol des éléments minéraux différents, des populations microbiennes diverses et variées. Dernier point tout simple, lors de la récolte, coupons les plantes à leur collée et laissons les racines se décomposer dans le sol. Voilà, j'espère que cet article vous a plu. J'espère que vous allez laisser de nombreux commentaires et poser vos questions. Et je vous dis à bientôt.